Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire. Bonjour Isabelle Schmitt.
Bonjour chère Anne Colin.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un très grand plaisir de vous recevoir. Les auditeurs ne savent pas nécessairement qui se cache derrière les merveilleux hors-série du Figaro, mais je crois que vous y êtes pour beaucoup.
Je vous remercie. C'est d'abord Michel de Gégère qui a lancé cette excellente collection de numéros du Figaro hors série sur la culture. Son intuition était de pouvoir rebondir sur l'actualité culturelle de façon la plus intelligente, approfondie et agréable pour le lecteur, en lui offrant des articles à la fois substantiels, roboratifs, mais aussi très bien illustrés. Et puis en lui racontant une histoire, c'est la fameuse formule des 9, 10 ou 12 journées selon les thèmes qui raconte la vie de l'artiste, de la ville que l'on a choisi d'étudier. Et c'est une formule qui, je crois, correspond à tous les appétits intellectuels, puisqu'on peut avoir 10 minutes à consacrer ou bien une heure. On apprend toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui retient notre attention et qui peut, ne serait-ce qu'en le feuilletant, par la beauté de l'iconographie et des images,
C'est
nous
ça, c'est
familiariser avec le thème traité.
exactement. Je dois dire que pour avoir la chance d'avoir le Figaro hors série à chaque fois qu'il sort, selon les thèmes, évidemment, on peut, je le lis différemment. Et parfois, c'est vraiment, je me force même, je l'ai déjà dit à Michel de Gégère, à le lire comme un livre, c'est-à-dire en le découvrant au fur et à mesure où je tourne les pages, je m'interdis de le feuilleter à l'avance. Et ça, c'est quand quand le sujet m'intéresse particulièrement, parce que je sais que je vais goûter, m'enrichir à chaque page que je tourne. Et là, le numéro dont nous allons parler aujourd'hui, qui est consacré à Gaudi, est un merveilleux numéro. Gaudi, le soleil de Barcelone. Je le montre à nos auditeurs qui nous regarderaient plus tard lors de nos diffusions sur YouTube. Donc Gaudi, le soleil de Barcelone, très beau numéro, en librairie jusque vers le 10
Alors,
juillet,
en
en
kiosque,
kiosque.
oui, ce sont les derniers jours en kiosque, mais il est disponible, il sera en librairie à partir de septembre, là vraiment dans les librairies, non plus les kiosques, et surtout il est en ligne sur la boutique du Figaro, si vous tapez Figaro Store, alors pardon pour cet anglicisme, mais sinon ou boutique Figaro en ligne, sur Internet, vous le trouvez sans aucun problème et vous pourrez le commander là où vous passez vos vacances d'été, parce que je pense que ça peut être un très bon compagnon
Oui,
pour
bien sûr, c'est sûr qu'il y a une
les jours
alternance. Là, on a
clairs.
eu Victor Hugo récemment. Vous préparez un prochain numéro qui sort là très bientôt.
Oui, un prochain numéro très bientôt sur l'Odyssée, à l'occasion de la sortie du film de Christopher Nolan qui sort le 15 juillet, dont on ne sait pas encore s'il est très fidèle au récit d'Homère, dans quelle mesure il le sert ou non. C'est Matt Damon qui prête ses traits à Ulysse. Et en tout cas, ce film, Christopher Nolan est toujours assez avare de projections de presse, donc nous n'avons pas encore pu le voir. Personne n'a pu le voir en France aujourd'hui pour ce qui est de la presse. Mais on s'est dit que c'était une belle occasion de célébrer Homère et cette œuvre, ce chef-d'œuvre de l'histoire de la littérature et de l'humanité, qui nous dit qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, les hommes avaient déjà des élans, des sentiments, des passions, des tempêtes, traverser des tempêtes comme nous, et qu'en fait, on avait énormément à apprendre de ce chef-d'œuvre. Et donc, dans ce numéro, nous parlons certes du film, mais surtout de cette aventure homérique. On pose la question, Homère a-t-il existé? Quelle est sa spécificité? On a un très bel article de Philippe Brunet, qui est un des traducteurs actuels de l'Iliade et de l'Odyssée, qui a passé plus de 20 ans de sa vie, 30 ans, je crois, à traduire cette œuvre d'Homère en essayant de lui restituer sa musique originelle. Et puis, il y a des articles plus historiques sur le contexte de la navigation à l'époque d'Homère et un dictionnaire des personnages qui nous fait voyager dans l'Odyssée. Donc voilà, je crois que c'est un très beau numéro, Je ne parle même pas de l'iconographie, parce qu'alors là, même pour ceux qui n'auraient pas la chance de partir en vacances, précisément, cela constitue un voyage. Le périple d'Ulysse à travers toutes ces îles est merveilleux à parcourir, en feuilletant ou en découvrant page à page le numéro. Et donc on a essayé d'en donner une vision à la fois littéraire, esthétique, humaine, historique. Et je crois que c'est assez réussi. Je le dis d'autant plus que j'ai peu participé moi-même en écrivant des articles, mais j'ai découvert ceux des autres et je les ai trouvés passionnants.
Oui, bien sûr, mais vous faites bien de parler de la langue parce que c'est toujours un sujet, moi, qui m'intéresse lorsque je voyage grâce aux livres des historiens que je reçois. Par exemple, quand je reçois des spécialistes de l'Égypte ancienne, comment est-ce qu'on parlait hiéroglyphes? Parce que ça devait se prononcer, et on devait les lire en les disant. Et comment est-ce qu'on parlait le grec à l'époque d'Homère? Comment est-ce qu'on pouvait lire aussi à voix haute, j'imagine que quelqu'un lisant pour la première fois l'Iliade et l'Odyssée a bien dû lire des passages à son voisin de siège. Et donc, comment est-ce qu'on disait ça? Est-ce qu'il y avait une magie poétique que l'on arrive difficilement à retrouver de nos jours? Enfin, je trouve ça très passionnant et très frustrant en même temps.
Alors, c'est tout à fait passionnant et j'invite nos auditeurs à aller découvrir les travaux de, non seulement les travaux de Philippe Brunet, mais aussi toute son œuvre théâtrale, parce qu'il a mis en scène des dizaines d'œuvres classiques. Alors, pas seulement Homère, mais Plaute, enfin, Euripide, Eschyle, Sophocle, tout cela en français et en grec. On avait eu la grande chance de bénéficier d'une représentation d'Antigone pour le numéro du Figaro hors-série que nous avions sorti sur Athènes. Et il était venu jouer avec quelques comédiens Antigone à l'antique avec des masques. Et en chantant, justement, en nous faisant entendre à la fois en français et en grec la musicalité d'Homère. Homère écrit en hexamètre, donc des vers de 8 pieds, et avec une alternance d'accentuation des syllabes. Philippe Brunet dit que les allitérations en grec sont tout à fait marquées et qu'elles aident vraisemblablement la mémoire de l'aède, celui qui chante, qui récite. Et il a essayé de les rendre en français. Et quand il lit certains passages de l'Odyssée, c'est merveilleux. Il dit d'ailleurs que avec ça, il a lancé une troupe qui s'appelle Démodocos, du nom de l'aède aveugle que rencontre Ulysse. Et avec cette troupe, ils vont jouer donc ces classiques de la langue grecque et de la langue latine aussi. Mais également, ils ont lancé ce qu'ils appelaient des marathons, c'est-à-dire une lecture suivie d'Homère pendant des jours entiers. Et ils sont allés à Athènes en proposant aux gens de venir lire. Et les Grecs se réappropriaient le texte d'Homère en essayant de le chanter, d'en interpréter la musique. C'est merveilleux et je trouve que, enfin, il me semble qu'après avoir, quand on découvre des gens comme ça, on ne peut plus penser que le grec ancien est une langue morte. Non, ça n'est pas une langue morte. Quand on l'entend, elle est tout à fait vivante et elle nous inspire aujourd'hui.
Alors, puisque vous parlez d'Antigone, de Sophocle, évidemment, signalons aux auditeurs qu'il y a actuellement une représentation d'Antigone Danouille au théâtre de poche du Montparnasse, que je suis allée voir et que j'ai trouvé assez réussi. En tout cas, ce texte est incroyable.
Oui,
C'est une
c'est une très belle adaptation, très belle mise en scène, très belle interprétation. La jeune actrice est merveilleuse. J'invite nos auditeurs à retrouver l'article que Michel de Gégère a consacré à cette pièce, justement en réfléchissant aussi sur le fond de la pièce. Qu'est-ce que Sophocle nous invite à approfondir comme dilemme moral et comment les différents personnages de la pièce y répondent. Voilà, ils pourront trouver cet article en tapant sur Internet Antigone, Michel de Gégère, Le Figaro, Histoire. Et c'est un jugement enrichissant sur cette pièce et bien sûr le théâtre de poche au lieu de la culture dont je recommande aveuglément la programmation. C'est jusqu'ici, je n'ai vu aucune pièce qui m'ait déçu, bien sûr, on a ses goûts, on aime plus ou moins,
Oui, bien sûr. Oui, après, il y a le texte et l'interprétation. Mais là, c'est vrai que j'ai
exactement.
été. Moi, je vais beaucoup à la comédie française et en dépit de beaucoup d'agacement, je suis quand même toujours éblouie par la qualité de jeu de ces acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a un excès. Je vais faire. Une redondance, un excès excessif de volonté de transposer dans un contexte moderne des situations qui ne l'étaient pas, et souvent au dépit du texte et au dépit de la pudeur. Mais là justement, c'est fait avec beaucoup d'intelligence parce que le metteur en scène s'est permis de. J'ai relu du coup la pièce que je connais quand même bien, mais je l'ai relue juste après. Et c'est vrai que les soldats il leur a donné un côté éminemment contemporain, réuni dans un. Mais c'est très bien vu, vraiment très très bien vu, et ça nous permet de nous poser les éternelles questions que l'homme peut se poser. Voilà. Où dois-je, où sont les limites de mon obéissance et de ma désobéissance? Et est-ce que ma volonté de désobéissance est justifiée, ou bien est-ce qu'elle est uniquement le fruit de mes bas instincts et de mes viles envies. Non, c'est voilà, j'invite vraiment les auditeurs à s'y rendre. Alors, chère Isabelle Schmitt, je rappelle que vous collaborez de façon très étroite avec Michel de Gégère à la création, enfin pas irrégulière, mais en tout cas une régularité qui vous est propre des sorties des hors-séries du Figaro, et que là actuellement en kiosque vous avez consacré un merveilleux numéro à Gaudi, le soleil de Barcelone. Alors, on va essayer quand même d'être didactique parce que ce personnage assez méconnu ou connu pour quasiment une seule de ses œuvres et oscillant entre le génie et la folie. C'est un personnage qui aurait dont l'anniversaire de la mort est un centenaire cette année. Voilà. Donc et il se trouve que d'un point de vue de la construction de la Sagrada Familia, on était en plus à une prouesse puisque normalement on a la plus haute tour qui vient d'être achevée. Alors vous avez senti la nécessité de vous y associer évidemment, le pape y est allé en juin dernier. Peut-être avant de rentrer dans les détails, une impression générale, comment 100 ans après sa mort, plus de 100 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia, je sais pas, quelle impression générale avez-vous pu dégager à l'issue de ce travail colossal que vous avez effectué?
Je dirais que ça a été un privilège de découvrir cette figure dont vous le dites, elle demeure largement méconnue du grand public, en tout cas du public français. Chez les Espagnols, évidemment, et surtout chez les Catalans, il est bien plus célèbre. Mais la fréquentation de cet homme m'a absolument enthousiasmé parce que il m'a semblé que c'était. Vous savez, le pape y est allé et son procès en béatification est ouvert. Quand on le fréquente, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui s'est laissé habiter peu à peu par le mystère divin, par le mystère de la foi, et que cette foi a irrigué toute sa vie, son intelligence, ses aptitudes, et Dieu sait qu'il en avait. C'était vraisemblablement un surdoué, alors un surdoué qui déstabilisait énormément ses professeurs, puisque le jour de sa remise de diplôme, le directeur de l'école d'architecture de Barcelone dit quand même, nous avons remis le certificat à un fou ou à un génie, l'avenir le dira. Gaudi était très médiocre en géométrie, mathématiques, il pouvait avoir des très mauvaises notes, mais il était excellent en dessin. Excellent en projection. Il était fils, petit-fils, arrière-petit-fils de chaudronnier, ce qui lui donnait, disait-il, la capacité d'imaginer à partir d'une surface plane les volumes et ce qu'allaient devenir les choses. Et en fait, Il s'est laissé guider au fil des opportunités de sa carrière par des occasions de chercher toujours la solution la plus esthétique, la plus intelligente. Alors vous avez nommé un bâtiment qui le rend célèbre à travers le monde, c'est la Sagrada Familia. Et cette Sagrada Familia, elle déstabilise. Alors parce que elle est immense. Vous avez parlé de la plus haute tour. C'est elle, une tour qui monte à 172 mètres 5 de haut. C'est la plus haute tour d'une église au monde. Et donc elle déstabilise par sa hauteur, par son gigantisme, par l'abondance de ses sculptures. Je dirais que oui, l'extérieur est renversant. On ne sait pas si c'est beau ou si c'est juste immense. Il y a une sorte de plénitude. On peut avoir l'impression que c'est trop, mais quand on rentre à l'intérieur de cette basilique, on est aspiré vers le haut. On a un sentiment d'élévation incroyable, alors qui est dû à plusieurs éléments. Il y a la lumière, il y a les proportions, mais il y a aussi le fait que ces colonnes s'élèvent vers le ciel sans contrefort. Gaudi avait beaucoup d'admiration pour l'art gothique. Il en était même un des spécialistes. On l'a consulté pour restaurer des abbayes gothiques catalanes. Mais il disait tout de même que c'était un art boiteux, parce qu'il voyait les contreforts comme des prothèses, des béquilles. Et lui voulait que en fait sa basilique soit comme une forêt de pierres qui reproduisent l'immensité que suggéraient les plus hautes forêts de Catalogne qu'il parcourait en marchant. C'est un marcheur passionné, et il a cherché toute sa vie des solutions pour imiter la grandeur de Dieu et apprendre à son école. Et donc moi j'étais très touché de sentir la quête qui l'habitait et de voir à quel point elle imprégnait toutes ses œuvres. Alors il y a une anecdote amusante, c'est que sa première œuvre en tant qu'architecte, ce sont des toilettes publiques. On pourrait dire, c'est les toilettes publiques et c'est une halle à blanchir le coton qu'il construit à Mataro pour des ouvriers. Et on pourrait se dire, les toilettes publiques, bon, c'est voilà, aujourd'hui, on sait ce que c'est dans les lieux publics. On a des toilettes fonctionnelles, il n'y a rien de plus à en dire. Dans le meilleur des cas, elles n'esquintent pas trop le paysage. Là, Gaudi fait un petit bijou d'ornementation, d'esthétique, un côté très pratique et hygiénique aussi. En fait, il veut, ce qui est très frappant dans toutes ses œuvres, c'est qu'il veut mettre de la beauté partout. Et il y a une phrase très claire dans laquelle il dit l'art est la révélation de la beauté, et la beauté est la manifestation de la vérité. Je crois que profondément, c'est quelqu'un qui cherchait la vérité en tout, et qui, à travers cette beauté qu'il a voulu semer dans ses constructions, il y a quelques maisons assez connues à Barcelone aussi, la Casa Batlló, la Pedrera, qui sont des maisons aux formes ondulées, qui peuvent paraître celles d'un fou, mais qui sont aussi des hymnes à l'intelligence et à la foi, et qui offrent en fait, à travers la beauté, un message qui nous fait approcher de la vérité.
Oui, alors Isabelle Schmitt, vous avez, j'imagine, quand même comme conclusion à l'issue de ce travail, qu'il est légitime de s'intéresser au personnage et qu'il est légitime de considérer que ses travaux, alors comme vous dites, il est écrasé par la Sagrada Familia, mais enfin, tout votre hors-série a pour aussi objectif de nous montrer toutes ses autres réalisations et combien nombreuses sont-elles, mais il est légitime de considérer que c'est un véritable artiste et avec un véritable apport architectural, parce qu'on entend souvent dire, oui, bon, Gaudi, à part le parc et puis
Ah,
cette
le parc
Sagrada.
Güell, oui, avec ses fameux bancs ondulés.
Voilà, c'est un petit peu les seules choses qui nous sont montrées. Mais si vous le voulez bien, on peut peut-être, avant de se lancer dans les réalisations, parler un peu du personnage et puis parler aussi de ce contexte tout de même artistique, social, puisque les deux sont assez liés dans l'histoire de ces réalisations. Et puis ce contexte aussi géographique, hein, éminemment catalan, qui va expliquer l'architecture typique de Gaudi. Donc, je donne juste des dates et ensuite je vous laisse parce que je ne connais pas grand-chose de la vie d'Antonio Gaudi. 25 juin 1852, 10 juin 1926. Donc c'est quelqu'un qui naît dans une Espagne du 19e siècle, encore très monarchiste, et puis qui va mourir à l'aube quand même d'une Espagne profondément marquée par la crise sociale, à la veille d'une guerre civile très violente. Donc on voit que il vit dans des bornes chronologiques d'une profonde transformation de la société espagnole.
Absolument. Gaudi naît à une époque passionnante à étudier parce que c'est l'époque de la révolution industrielle à Barcelone. C'est l'époque où Barcelone s'affirme face à Madrid et devient en réalité la capitale économique du pays. Barcelone revendique cela d'autant plus que c'est la capitale, la ville principale de la Catalogne, Catalogne qui a une histoire propre, une langue propre, une culture propre. Et ça, à l'époque de Gaudi, tout cela va être affirmé par cet art nouveau que l'on appelle modernisme en Catalogne et qui, à la différence de beaucoup d'arts nouveaux européens, que ce soit en France, en Allemagne, en Autriche, cet art catalan est très lié à l'identité catalane. Ailleurs, en Europe, bien sûr, l'art nouveau exalte, il peut être historiciste, il exalte certaines figures de l'histoire, voilà, le Moyen-Âge, les légendes sont particulièrement honorées, apparaissent dans les images, mais en Catalogne, c'est vraiment l'identité catalane, les saints catalans, les héros qui apparaissent partout, les drapeaux catalans qui apparaissent sur les monuments. Et Gaudi, donc, naît à cette période d'effervescence à la fois industrielle, culturelle, intellectuelle. Évidemment, la richesse industrielle générée par les affaires, les usines, notamment les usines textiles à Barcelone, permettent à de riches familles de se faire construire de magnifiques palais et d'influer, enfin en fait de subventionner une vie culturelle extrêmement nourrie, riche, à la fois dans le domaine de l'architecture, mais aussi de la musique. Il y a un merveilleux palais de la musique qui est construit à Barcelone par Domènec Montaner, l'un des professeurs de Gaudi, et qui aura pour ambition de rendre accessible au peuple, et notamment aux ouvriers, la musique, les grandes œuvres. C'est un palais qui accueille des chorales. Et donc, on a une réalité d'une Catalogne qui est une sorte de chantier à ciel ouvert, pour le meilleur et pour le pire. Je parle d'abord du pire parce que Barcelone est connue, très célèbre au moment de la guerre civile, pour la virulence de ses syndicats, de l'anarchisme. Et tout cela, en fait, a poussé sur le terreau de cette époque où on fait venir énormément, dans la perspective de l'exposition universelle de 1888, on fait venir des milliers d'ouvriers de partout en Espagne et qui vont être logés dans des conditions insalubres, qui vont être payés pas beaucoup en travaillant jour et nuit. Et donc, évidemment, cela provoque une réaction, un syndicalisme et des oppositions. Et ça, donc, c'est la partie la plus sombre, je dirais, et la partie la plus lumineuse, c'est que Barcelone est totalement réorganisée du fait d'épidémies précédentes dans la vieille ville. On développe tout un nouveau quartier qui s'appelle l'Eixample et sur lequel va être construite la Sagrada Familia et qui va être c'est une ville qui va être dessinée, totalement dessinée par un urbaniste, Cerdà, qui conçoit la ville vraiment quadrillée. On dit que c'est le Haussmann parisien. Alors lui, à la différence d'Haussmann, il voulait des bâtiments tous pareils, en fait, très peu de place à la créativité. Toute la grande bourgeoisie industrielle va complètement le doubler par sa droite, je dirais, parce qu'ils vont tous rivaliser en se faisant construire de très grands palais et des maisons très originales, qui se singularisent toutes les unes des autres. Donc, l'idée originale de cet urbanisme n'est pas respectée, mais son dessin, oui. Et Barcelone pousse comme, non pas comme, comme de la mauvaise herbe, disons qu'aussi vite qu'une mauvaise herbe, mais de façon bien plus ordonnée. Et ce Gaudi naît à la vie professionnelle dans ce contexte. L'école d'architecture de Barcelone, et je crois qu'il fait partie de la deuxième promotion, elle est vraiment toute nouvelle quand il passe son diplôme, parce que précisément, Barcelone a pris son indépendance de Madrid, pas politiquement, mais en tout cas dans les faits.
Et pourquoi un fils, petit-fils, comme vous venez de nous le dire, de chaudronnier, né dans une petite bourgade catalane, mais pas né à Barcelone, se retrouve dans une école d'architecture?
Alors, bon, il naît à Reus, qui est quand même une ville, c'est la deuxième ville industrielle, en fait, après Barcelone. Aujourd'hui, elle est, effectivement, elle est moins importante que d'autres grandes villes catalanes, mais à l'époque, il y a quand même une activité. Et en fait, Gaudi, tout petit, souffre de rhumatisme. Il ne peut pas faire ce que font les autres enfants, d'aller jouer et de marcher beaucoup. Après, il marchera beaucoup parce que les médecins lui conseilleront de marcher au moins 10 km par jour. Il fera partie d'un club du club excursionniste de Catalogne et il sera passionné de randonnée. Mais quand il est enfant, il dessine énormément et en fait, ses parents se rendent compte qu'il a un don, qu'il a un vrai don et qu'il faut et il a la chance de pouvoir être instruit, d'aller à l'école. Et son maître également détecte chez cet élève atypique de vraies aptitudes pour les études. Et donc sa famille lui fait confiance en voyant qu'il a un vrai goût et pour le dessin et pour l'architecture. Il y a une anecdote que nous racontons dans les journées de la vie de Gaudi qui sont écrites dans Figaro hors série par Alban Pio et qui raconte que Gaudi, tout jeune, il n'a pas 20 ans, part en excursion avec des amis à l'abbaye de Poblet, magnifique abbaye dans la région de Tarragone et près de Reus, sa ville natale. Une abbaye cistercienne, je crois, ou bénédictine, gothique, qui va être. Qui va se développer en fait au fil des siècles. Donc il y a des bâtiments Renaissance, des bâtiments baroques. C'est une merveille. Je vous la recommande. Et il y va alors que Poblet est en très mauvais état. Pourquoi? Parce qu'en 1835, une loi anticléricale avait été votée par l'un des ministres anticléricaux de la reine. De la régente de l'époque et qui avait en fait expulsé les communautés de leur monastère dans l'idée de répartir les terres, de répartir plus équitablement les terres aux pauvres gens. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont pu acheter les terres, alors déjà l'Église a réagi en menaçant d'excommunication ceux qui achèteraient les terres des monastères, donc évidemment ça réduisait un petit peu le marché, parce que l'Espagne était très catholique. Mais avec un courant anticlérical fort. Et donc, les gens qui ont pu acheter ces terres, en réalité, les ont gardées pour eux, ont constitué d'immenses propriétés terriennes. Et ça a été peut-être pas la seule origine, mais en tout cas l'une des origines du gros problème agraire qu'a connu l'Espagne, des injustices sociales. Parce qu'en fait, avant, du temps des monastères, les pauvres agriculteurs, ceux qui étaient les moins dotés, venaient cultiver en bonne intelligence avec les moines et pouvaient vendre le produit de leur travail ailleurs et en vivre. Alors que après, les riches propriétaires ont fait fructifier leurs propriétés, mais il n'était plus question d'accueillir gratuitement de pauvres agriculteurs. Donc ça a amplifié le problème. Et pourquoi Gaudi s'y rend donc, quand il a tout juste 20 ans? C'est que Poblet a été abandonné, n'a pas été acheté. Encore, peut-être que les terres alentour sont achetées, mais pas le monastère. Et donc le monastère est en très mauvais état. Et Gaudi se rend avec deux camarades de son âge. Les trois, ils sont amusants parce qu'ils sont passionnés à la fois de leur région. Ils aiment aller marcher ensemble. Ils sont passionnés de monuments. Et donc l'un va écrire une histoire de l'abbaye de Poblet qui a été publiée après. L'autre dessine les plans de l'abbaye pour la relever. C'est Gaudi. Et le troisième. Eh bien, je ne sais plus ce que fait le troisième, mais en tout cas, voilà, ces deux-là, on fait acte de restauration. Enfin, voilà, spontanément, ils ont entrepris un projet pour restaurer l'abbaye. Et là, il y a des plans, des choses. Et donc, Gaudi n'est pas encore étudiant à l'école d'architecture, mais j'imagine que la famille, voyant cela, sait que leur fils et petit-fils est passionné de tout cela et donc l'envoie étudier à Barcelone.
Alors, je rappelle aux auditeurs que je reçois Isabelle Schmitt, qui nous présente aujourd'hui le numéro hors série du Figaro consacré à Gaudi, Gaudi le soleil de Barcelone. Pour les auditeurs qui nous prendraient au cours de cette émission, Gaudi, c'est un architecte à la base, hein, et c'est le alors c'est un architecte particulier. Je ne sais pas si nous aimerions, Isabelle et moi, l'avoir comme architecte, parce que apparemment, il n'y avait que lui qui avait les choses dans la tête. Il fallait lui faire toute confiance, ce qui posera des problèmes ensuite. Alors, nous allons nous interrompre pour l'habituel bobino de Radio Courtoisie et nous reprenons juste après Isabelle.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, chère Isabelle Schmitt, nous reprenons notre conversation autour de ce numéro hors série du Figaro, Gaudi, le soleil de Barcelone. Alors, là aussi, comme nous venons de l'entendre, même le Figaro hors série est en ligne. On peut le lire sur sa tablette, sur son ordinateur. Bon, c'est vrai que c'est très pratique, mais j'avoue que le hors-série du Figaro, c'est quand même très 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 dommage de ne pas l'avoir dans ses mains. C'est peut-être l'occasion de parler des photographies, de la maquette, de la conception. C'est vraiment, je le remontre aux auditeurs qui nous regarderont lors enfin avec YouTube, puisque nos émissions sont sur YouTube, mais c'est un magnifique magazine de plus de 150 pages. Et comment choisissez-vous vos photographes? Vous savez que pour tel domaine, il vous faudra tel ou tel photographe. Comment est-ce que cela se passe?
Alors, notre iconographe experte, Carole Brochard, travaille avec un certain nombre de photographes et d'agences de photographie et connaît les domaines de prédilection des uns et des autres. Alors, il est assez rare que nous partions en reportage avec un photographe parce que, en fait, beaucoup de photographes ont travaillé déjà les sujets et que, d'expérience, il est plus facile de trouver des photos magnifiques quand un photographe a travaillé pendant 10 ans sur un sujet plutôt que quand il vient 10 jours avec nous en reportage. Et je vous donnerai une anecdote pour la photo de couverture. On a beaucoup tâtonné parce que la tour de Jésus venait d'être inaugurée avec la croix, la grande croix qui la surmonte. Et il y avait très peu de bonnes photos sans échafaudage, avec la luminosité qu'il fallait. Et donc, on a eu, Carole Brochard, notre iconographe, connaissait le photographe Manuel Cohen qui habite Barcelone, qui est allé faire des photos en demandant aux gens qui habitent les immeubles en face de la Sagrada Familia s'ils pouvaient monter chez eux à l'étage le plus haut pour faire des photos. Enfin, voilà, il y a toute une aventure humaine derrière ces photos. On publie également des photos d'archives. Certaines agences sont spécialisées dans les photos historiques. Je vous parlais du contexte de Barcelone tout à l'heure, sur lequel avait prospéré l'anarchisme et un syndicalisme violent pour défendre les droits des ouvriers qui, il faut bien le dire, étaient assez souvent bafoués. Et ces photos d'archives nous aident aussi à prendre la mesure de ce que l'on a sous les yeux aujourd'hui. Nous sommes des héritiers très gâtés, puisque nous jouissons de la vue de l'œuvre presque achevée de Gaudi. Je dis presque parce que le portail de la gloire, il y a trois portails, celui de la nativité, celui de la passion et celui de la gloire. Celui de la gloire n'est pas encore sculpté. Mais la structure de la Sagrada Familia est finie. Elle ne montera pas plus haut. Elle a le nombre total de ses tours. Gaudi lui-même a vu une seule de ses tours de son vivant. Les autres, il y a 18 tours en tout, les autres n'étaient pas encore construites. Et donc, cette, cette variété de photos qui nous montre les travaux de la Sagrada Familia qui s'élèvent peu à peu dans le ciel de Barcelone, mais on voit des champs sauvages avec des chèvres qui broutent au pied de la basilique. Bon, ça a bien changé aujourd'hui, c'est totalement construit autour. Et bien, tout cela nous aide à prendre conscience du fait que c'est une aventure d'un siècle à laquelle on assiste et que cette Barcelone que l'on découvre s'est construite à l'époque de Gaudi de façon à une vitesse vertigineuse. Nous avons rencontré pour la réalisation de ce Figaro hors-série sur Gaudi un auteur exceptionnel, un prêtre qui consacre sa thèse à l'architecture civile de Gaudi, le père Francesc Javier Vila, et qui nous expliquait que il a une formule amusante qui dit Gaudi est notre soleil et notre ombre, sol y sombra. Pourquoi notre soleil? Bah, évidemment, le soleil de Barcelone, c'est celui auquel on pense à la Sagrada Familia quand on pense à Barcelone, mais dit d'une certaine manière, il fait de l'ombre à tous les autres, et on oublie tous les autres grands architectes de l'époque, et Dieu sait s'il y en a, parce que quand on se promène dans cette Barcelone du 19e siècle et du début du 20e, on ne sait où donner de la tête. Pour regarder les façades, les églises, mais surtout les façades des maisons privées. Il faut bien le dire, les industriels ont rivalisé alors on pourrait dire, et pardon pour l'expression anglaise, bling bling, mais enfin quelque chose de voilà qui appelle l'attention, qui attire le regard, qui n'est pas du tout sobre, mais qui est intéressant et beau dans son style.
Alors, si vous le voulez bien, Isabelle, on va peut-être justement parler de cette autre architecture pour revenir ensuite à la fin sur la Sagrada Familia, dont il faut quand même rappeler aux auditeurs que, comme le dit ce prêtre, Gaudi a réussi quand même cette magie d'associer pleinement son nom à une œuvre sur laquelle il a travaillé pendant une trentaine d'années, hein,
Il y a presque 40 ans, je crois, oui.
bon, par rapport aux 100 ans qui se sont écoulés depuis sa mort. Donc, c'est quand même pas banal qu'on continue à associer à cet homme cette œuvre alors que tant d'autres ont travaillé dessus.
Oui, c'était une réflexion de l'écrivain Michel Bernard, qui a écrit un très beau papier dans notre Figaro hors-série sur les vitraux de la Sagrada Familia. Je l'interrogeais sur la sainteté de Gaudi, et il me disait ce qui me frappe chez cet homme, c'est que c'est un contemporain qui a construit à la manière des bâtisseurs des cathédrales, qui savaient très bien, eux, qu'ils ne verraient pas la fin de leur œuvre. Mais enfin, aujourd'hui, un architecte du XXe siècle qui construit, a priori, il conçoit son œuvre de manière à pouvoir la voir achevée. Gaudi, non, il s'est effacé, il a passer le flambeau à d'autres. Il savait qu'il ne verrait pas l'achèvement de ses travaux. Et il a construit cette basilique pour qu'elle soit un hymne de célébration de la Sainte Famille et un hymne qui puisse parler au monde entier. Il a intégré sur les vitraux, par exemple, il y a les noms de tous les sanctuaires des diocèses alors tous, non, mais en tout cas des sanctuaires principaux des diocèses du monde entier. Il a vraiment voulu donner toute sa mesure pour une œuvre qui le dépassait. Il le savait, il l'acceptait. Et c'est cette humilité qui a frappé Michel Bernard, nous disant, moi, je suis écrivain, j'écris des romans. Pour moi, il est inconcevable que quelqu'un d'autre finisse un livre que j'ai commencé. Monet n'aurait pas accepté que quiconque, même Renoir, puisse toucher une de ses toiles. Là, Gaudi, œuvre. En donnant en fait en mettant son talent au service d'une œuvre qui le dépasse. Et alors je vous raconterai une anecdote puisqu'on parle on vous évoquiez l'architecture civile. Il y a une maison très célèbre dans Barcelone qui s'appelle la Pedrera, qui est on dirait une vague de pierre. La façade est ondulée. Et elle est très étonnante. Elle s'inspire peut-être d'un rocher de Catalogne qui est pas loin de Montserrat et qui reproduit ce même mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien la façade en haut, il y a marqué, vraiment marqué Ave Maria Gratia Plena, avec des roses qui représentent le rosaire. Et Gaudi a eu un gros litige avec les propriétaires parce que dans le plan initial, il était prévu de mettre une statue de la Vierge de 4 mètres de haut, en haut de la maison. Or, c'était au moment de la semaine tragique de Barcelone en 1909, où les anarchistes se sont révoltés et ont fait brûler une vingtaine d'églises et de couvents. Donc les propriétaires de la maison, les Mila, se sont dit que s'ils faisaient mettre une statue de la Vierge de 4 mètres de haut, comme c'était dans les plans, comme c'était prévu, eh bien, ils risquaient eux-mêmes d'avoir leur maison brûlée. Donc ils ont reculé. Et ça a été un grand motif de contrariété pour Gaudi. Ils ne se sont pas entendus sur d'autres points. Il y a eu un procès que Gaudi a gagné. Et il a intégralement versé, je crois que c'était 105 000 pesetas, qui était une somme colossale à l'époque. Il était déjà sur le chantier de la Sagrada Familia, il aurait pu allouer cette somme, même pas pour lui, mais pour ce chantier, mais même pas. Il a donné l'intégralité de la somme aux jésuites pour les pauvres, en disant « Je n'ai pas travaillé pour les Mila, j'ai travaillé pour la Vierge, je lui rends l'argent. » Je trouve que voilà, cette anecdote illustre quand même le côté exceptionnel de cet architecte et de cet homme.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, quelle est la première œuvre? Vous avez parlé donc des toilettes publiques. Évidemment, elles sont originales. On peut se dire qu'il a été remarqué par des personnes qui se sont dit, s'il est capable de faire ça pour des toilettes, qu'est-ce qu'il va donner ailleurs? Et pour des ouvriers, bien sûr. Mais quelles sont les œuvres préalables à la Sagrada Familia qui vont asseoir sa notoriété et expliquer qu'il soit choisi après par les plus grands pour réaliser des palais, des maisons.
Alors, l'une de ses œuvres de jeunesse, c'est la Casa Vicens, qu'on voit à Barcelone, qui, quand Gaudi le construit, c'est encore une zone assez champêtre. Et Gaudi va construire une maison à la façade jaune et verte, avec des fleurs. On dirait presque du Liberty sur la façade. Et on pourrait se croire dans la Vienne de l'Art Nouveau. Ce qu'il y a, c'est que l'Art Nouveau à Vienne, la sécession, tout ça, c'est 20 ans après. Donc Gaudi anticipe, et anticipe, oui, c'est un précurseur, en fait, de ce style qui fleurira littéralement sur les façades de Vienne, notamment, 20 ans plus tard. Et lui, de quoi s'inspire-t-il quand il construit cette maison, qui est vraiment très original, qui reprend des éléments de l'architecture égyptienne antique, de l'architecture japonaise, mais avec ce décor, en fait, tout simplement, il arrive et sur ce terrain vague, il y a des fleurs sauvages, beaucoup de fleurs jaunes, et il dit, bien, j'ai dû détruire ces fleurs en construisant la maison, mais je les remets sur la façade pour rendre un hymne à la création. Donc cette Casa Vicens, c'est un petit bijou, elle est très réussie. Il y a la fameuse Casa Batlló. Ça, c'est un. Je dirais que c'est aujourd'hui, c'est une visite qui pourrait s'apparenter un peu à. Pardonnez-moi la comparaison, mais à Disneyland, parce que il y a des foules entières qui viennent. C'est caricatural, c'est-à-dire que dans la rue, en fait, cette maison est située sur ce qu'on a appelé la pomme de la discorde. En espagnol, la manzana, c'est la pomme, le bloc en fait de d'immeubles qui était construit. Et cette pomme de la discorde, elle comporte 4 immeubles, maisons immeubles, construites par les plus grands architectes de l'époque, Domènec Montaner, Pucci Cada Falc, le quatrième, j'oublie le nom du quatrième, et Gaudi. Et leurs styles sont absolument différents. Donc quand on est face à ce bloc de maisons, c'est incroyable parce qu'on passe vraiment, c'est pôle nord, pôle sud, mais vraiment à côté. Et c'est drôle de voir que la foule se concentre uniquement sur la Casa Batlló, alors que les autres sont très belles et très intéressantes également. On en parle dans notre numéro du Figaro série, on les a visitées. Mais la Casa Batlló, elle est célèbre pour sa façade ondulée, pour ses balcons en forme d'ossement. Ces balcons aussi en forme de crâne. Alors on a parlé de masque vénitien ou de crâne, et le toit qui est en forme de crête de dragon. Et donc elle est très déstabilisante. Et ce qui est intéressant, Cet auteur qui réalise une thèse sur l'architecture civile de Gaudi nous l'explique, c'est que ce sont des catéchismes de pierre. En fait, même les maisons civiles de Gaudi sont conçues comme un message de foi. En l'occurrence, pour la Casa Batlló, il s'agit du combat contre de l'affrontement en fait entre le bien et le mal. Je vous ai parlé du toit et du dragon donc qui est représenté dans le toit. Et il y a une tourelle sur le côté gauche de la maison qui peut représenter la lance de Saint Georges. Saint Jordi, le patron de la Catalogne, est très célèbre là-bas. C'est cela, mais cela peut représenter également le cierge pascal. Ce qui nous pousse à le croire, c'est qu'il y a les initiales Jésus, Marie, Joseph, qui sont inscrites sur cette tour, et c'est le cierge qui plonge dans l'eau du baptême, eau du baptême évoquée par le côté bleu et vert de la façade de la Casa Batlló. Et donc cette maison en fait montre que c'est par le baptême que le chrétien va réussir à lutter contre le mal et faire triompher le bien. Et en fait, quand vous regardez cette maison de bas en haut, c'est la victoire. On voit la mort en bas avec ses ossements desséchés, ses crânes. Et vers le haut, la lumière du cierge qui éclaire et qui donc triomphe du mal. Donc on passe de la mort à la vie par la foi. Et à l'intérieur de la Casa Batlló, il y avait une chapelle privée de la famille qui était au milieu de la maison. Alors malheureusement, elle était enlevée, ce qui fait qu'on ne comprend plus tellement l'unité interne. Mais toute la maison est construite avec une allusion aussi à l'univers marin, à cette eau du baptême qui est figurée par des carreaux bleus qui sont de plus en plus. Ils sont sombres au début et puis ils s'éclairent au fur et à mesure qu'on monte dans les étages. Je ne sais pas si j'aimerais y habiter parce que c'est un peu fatigant pour les yeux, mais quand même. Elle est exceptionnelle.
Alors, Isabelle Schmitt, malheureusement, je vois qu'il ne nous reste qu'une dizaine de minutes. Donc, si on veut quand même parler de la Sagrada Familia, il faudrait qu'on se lance dedans.
Allons-y.
Il prend le projet en cours, en fait, Gaudi,
Si.
hein.
Gaudi prend le projet en cours parce qu'en fait, c'est son professeur Villard avec lequel il a travaillé au sanctuaire de Montserrat, qui a commencé les travaux de la Sagrada Familia. Si ce fameux Villard les avait poursuivis, la Sagrada Familia serait une église néogothique comme il y en a 1000, et probablement nous ne la connaîtrions pas. Elle n'aurait rien d'exceptionnel. En fait, ce fameux Villard ne s'entend pas avec la société des Joséphins. Qui sont des dévots de Saint-Joseph, qui ont lancé le projet. C'est intéressant de savoir que c'est un projet qui fait appel à la générosité des fidèles. Il n'y a aucun argent investi ni par l'État ni par l'Église au départ dans ce chantier. Ce sont uniquement des dons qui répondent à l'appel de Pie IX d'honorer la Sainte Famille. Et donc Villard ne s'entend pas avec les Joséphins, qui du coup demandent à son élève, Gaudi, qui a 31 ans à l'époque, qui commence à être un peu connu, mais pas non, qui n'a pas non plus réalisé de très nombreux chantiers. Il lui demande de reprendre le chantier. Et donc là, Gaudi se lance dans cette aventure qui va totalement le dépasser. Et on peut être très reconnaissant aux Joséphins de lui avoir fait confiance, parce que il est vrai que s'il voulait une église rapidement construite, c'était pas du tout le projet que Gaudi leur a donné, mais Gaudi leur a montré l'ampleur de ce qu'ils voulaient faire, et on voit aujourd'hui qu'ils ont eu largement raison de lui faire confiance, puisque c'est une église qui attire à elle, c'est le monument le plus visité d'Espagne, et c'est une église qui attire à elle un nombre inouï de visiteurs qui ne sont pas familiers de l'architecture religieuse, de la foi. Ça, le père Francesc Javier Vila, qui fait beaucoup de visites guidées là-bas, en témoigne. Il dit, j'ai toutes sortes de gens et tous sont bouleversés par l'architecture et par le message qui est délivré, qui est en fait un catéchisme vivant qui veut faire parcourir aux gens par l'intermédiaire de l'architecture et de la lumière tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption.
Alors, pour l'avoir visité il y a quelques années, je trouve que c'est un choc, hein, de rentrer dans cette cathédrale de la Sagrada Familia, mais un véritable choc qui nécessite, je pense, pour peut-être la première fois, un accompagnement. Alors, l'audio guide est extrêmement bien fait et très didactique, très spirituel, et peut être suffisant. Peut-être qu'un accompagnement, soit avec un guide conférencier, soit avec un prêtre, serait encore mieux.
Oui, je souscris totalement à ce que vous dites parce que il est vrai que la beauté du lieu parle d'elle-même, mais il faut l'apprivoiser. On est déstabilisé par ses formes, ses colonnes torses, cet agencement oblique du poids. Les lignes ne sont pas droites. Il est écrit dans la Bible, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ben ça, Gaudi l'a bien compris. Il disait d'ailleurs que la ligne droite, en fait, est une invention humaine, mais que Dieu se sert beaucoup plus et presque exclusivement de la ligne courbe. Et ce qui est très intéressant, si l'on a une visite de quelqu'un qui est familier de la culture chrétienne et des Écritures, c'est que Gaudi s'inspire vraiment des nombres sacrés, de la numérologie sacrée. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il n'est pas question, attention, je mets en garde Dan Brown, s'il nous réécrit un Da Vinci Code inspiré de la Sagrada Familia, il sera totalement à côté de la plaque. Rien n'est documenté sur une quelconque appartenance de Gaudi à une société secrète, à la Kabbale, à la franc-maçonnerie, rien du tout. En revanche, lui-même écrit beaucoup sur la signification des nombres sacrés et l'unité de mesure de la Sagrada Familia, c'est 7 et demi. Qu'est-ce que 7 et demi? En fait, 7, c'est le nombre de la création. 8, c'est le nombre de la rédemption. 7 et demi, c'est la créature qui rejoint son créateur. Quand vous savez que c'est ça, l'unité de mesure qui va tout conditionner dans la Sagrada Familia, je trouve que cela éclaire les choses de façon très... très, 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 très intéressante et cela nous aide à porter un regard différent. Pareil pour les vitraux. Gaudi a conçu ses vitraux à orienter sa basilique en fonction de la course du soleil. Il avait fait des études assez savantes pour savoir à quelle heure le soleil éclairerait telle partie de la basilique. Et donc, l'idéal, ce serait de passer une journée entière parce qu'on verrait que le matin, la lumière est bleue et verte, c'est la lumière des vitraux qui sont du côté du porche de la Nativité, donc de l'enfance du Christ. Ce seraient les mystères joyeux du rosaire et les mystères lumineux. Et puis, quand le soleil tourne, il passe de l'autre côté de la basilique, et là, ce sont les vitraux de la Passion qui sont rouges et jaunes, et c'est donc les couleurs de la passion, de la souffrance du Christ, du sacrifice du Christ pour l'humanité et de sa résurrection, couleur rouge et jaune. Et donc en fait, cette harmonie parle directement au cœur. Que l'on soit instruit ou non, chrétien ou non, on a une sensibilité, on est sensible à cela. Après, savoir ce qu'elle nous dit, c'est précisément quelqu'un qui connaît bien la pensée de Gaudi et ce qu'il a voulu faire qui peut nous l'expliquer. Et je crois que cela, enfin, c'est une clé majeure.
Alors effectivement, il y a la diffusion en abondance de la lumière à l'intérieur, il y a l'abondance de l'architecture en extérieur, enfin le fourmillement, il y a la splendeur des bronzes, de ces portes sculptées dans des détails incroyables, des petites coccinelles, des escargots. Vous parliez tout à l'heure d'un catéchisme des pauvres, c'est aussi un catéchisme pour enfants. On peut vraiment partir visiter avec un enfant, il trouvera lui matière à s'émerveiller. Et puis il y a tout un catéchisme intérieur qui là relève d'une dimension encore plus spirituelle, qui s'adresse au cœur plus qu'à l'œil.
Oui, absolument. En fait, Gaudi était habité par le désir de parler à l'âme des gens, de parler et ce, par l'intermédiaire de la beauté et des formes, mais avec la conscience que parfois, enfin que le message de la rédemption, il peut faire mal parce que le sacrifice du Christ, a été extrêmement cruel pour lui. Ça a été que en fait, le chrétien qui est appelé à porter sa croix à la suite du Christ et à s'associer à son sacrifice doit lui-même prendre conscience de l'effort qui lui est demandé et de la douleur que cela suscitera peut-être. Je vous parlais du portail de la Nativité, c'est celui que Gaudi a fait sculpter et qu'il a que lui a connu, mais il avait fait des dessins assez précis pour le portail de la Passion. Alors, beaucoup de dessins, malheureusement, ont été perdus parce que son atelier a été brûlé durant la guerre civile. Mais sur ce porche de la Passion, Gaudi dit, je voudrais que les formes sculptées dérangent et fassent presque peur pour que les gens puissent mesurer la cruauté du sacrifice. Donc, c'était, en fait, il veut que ce soit beau. Mais la beauté étant liée à la vérité, la beauté peut être douloureuse et cruelle. Et donc il ne veut pas, il ne conçoit pas quelque chose de joli, il conçoit quelque chose de beau et de vrai. Et à travers chaque forme, il entend enfin, donner un message qui va porter la personne qui le contemple à plus d'intériorité. Si j'ai le temps d'une... Je ne sais pas si j'ai le temps d'une dernière anecdote.
Une toute petite anecdote, une
Toute
toute
petite
petite
anecdote.
minute.
Il y a un jour, il fait visiter le chantier à des mécènes et s'approche une pauvre femme, mal vêtue, sans doute odorante, pas très agréable à regarder, et l'un d'eux fait un geste d'impatience. Gaudi, sans rien dire, interrompt sa visite, va trouver la dame, lui dit: Madame, vous êtes ici chez vous, et ce temple est construit pour ceux qui souffrent et qui espèrent, parce que le Christ a souffert et vous êtes d'entre nous, celle qui est sans doute la plus à même de comprendre cette basilique. Voilà, je trouve que
Bien
cette anecdote
sûr.
résume ce qu'il a voulu faire.
Merci beaucoup Isabelle Schmid. Je rappelle que vous offrez aux auditeurs et à tous vos lecteurs un magnifique hors-série du Figaro consacré à Gaudi, le soleil de Barcelone. Et précipitez-vous soit en kiosque, soit prochainement en librairie, soit sur le site en ligne du Figaro pour acquérir ce numéro, Gaudi, le soleil de Barcelone. Merci beaucoup
Merci
Isabelle
beaucoup. Et je
Schmid.
rappelle également l'Odyssée aussi, qui sort en
Apparaître.
kiosque, apparaître ces jours-ci.
Merci, chers auditeurs, de nous
Merci
avoir
bien.
écoutés. Isabelle Schmitt, et à bientôt, chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la mémoire dirigés par Anne Colin, émission préenregistrée le 2 juillet 2026 et diffusée pour la première fois mardi 7 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.